Je voulais vraiment vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé. Je constate qu'à Toulouse, il fait chaud, dehors et dans les cœurs aussi. Merci. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Je voudrais aussi féliciter cette église pour être une église missionnaire, une église missionnelle. C'est le cœur de Dieu. Et à ma surprise, peu d'églises ont ce cœur-là. Beaucoup sont préoccupés par leur propre croissance et oublient quelque part la logique de Dieu, les mathématiques célestes qui veulent que plus tu bénis, plus tu es béni. Plus tu donnes, plus Dieu te rend. En tout cas, bravo pour 14 ans de conférences missionnaires. Merci d'honorer le cœur de Dieu pour les pantata ethne, pour toutes les nations de la terre. Ce matin, je voudrais que nous puissions ensemble regarder à nouveau un passage de l'Écriture qui est bien connu, Matthieu chapitre 28. « Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie, dit Jésus à ses disciples. » Et dans tous les évangiles, ainsi que dans le deuxième tome de Luc, dans le livre des Actes, Jésus donne un commandement, le grand commandement, à ses disciples. Et par extension, il les donne aussi à nous qui sommes dans les traces de ceux qui nous précèdent. Il dit « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites donc de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer, à obéir, tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. » Cette expression de cette mission dans Matthieu 28 est fascinante. Elle se compose de deux parties, un peu comme un sandwich sub. Au milieu, vous avez la viande, le commandement. Et autour, vous avez les buns, le pain, les promesses. Et on va regarder ce matin, tour à tour, d'abord le commandement et ensuite les promesses. Et c'est vraiment important de se saisir de ces deux réalités, sinon vous n'avez pas un sandwich. Allez, faites donc de toute la nation des disciples les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Voici le commandement que Jésus laisse à ses disciples. Question pour un champion. Quel est le commandement? Je vous donne une piste. Dans l'original, il n'y a qu'un seul verbe à l'impératif. À votre avis, lequel c'est? Et ceux qui connaissent, vous vous taisez. À votre avis, quel est l'impératif? Quel est le commandement? Pour moi, pendant longtemps, j'ai cru que le commandement, c'était d'aller. J'ai dit, c'est ça, allez! Allez les bleus, allez, allez, bon, on y va. Jusqu'au jour où un missionnaire m'a cassé la baraque, il m'a dit non, c'est pas ça. Le commandement, c'est faites des disciples, qui dans l'original donne un seul verbe. Nous, on est un peu handicapés en France, on est obligé de faire trois mots avec. Faites des disciples. Discipulez, si vous voulez. Matitineo. Faites des disciples. Ça, c'est le commandement. Faites des disciples. Évidemment, les disciples disent, ok, ouais, mais comment? Ah, je vous le dis. Trois participes présents, en allant, en les baptisant, et en leur enseignant. Ça va? C'est extraordinaire comme c'est simple, de limpidité. Quand le Seigneur parle, c'est clair. Faites des disciples en allant, en les baptisant et en leur enseignant. Ça va? Tout le monde suit? Ça, c'est le commandement. Le commandement, c'est quoi? Faites des disciples. Ça va, vous suivez. Faites des disciples en allant. Première injonction. En allant. En allant. Qu'est-ce que veut dire aller? C'est se déplacer d'un point à un autre. Merci. C'est se déplacer d'un point où l'évangile est à un point où l'évangile n'est pas. Par exemple, sur cette carte, un point bleu représente 50 000 personnes qui savent que Jésus sauve. Un point rouge représente 50 000 personnes qui ne savent pas que Jésus sauve parce qu'il n'y a personne autour d'eux pour leur dire. Même s'ils voulaient le savoir, ils ne pourraient pas parce que personne ne leur dit. Et régulièrement, on me pose la question, et c'est quoi le blanc? La neige, le désert, la forêt. Oublie le blanc, c'est le bleu et le rouge qui est important. Qu'est-ce que vous constatez? Pardon?
L'Inde.
L'Inde. Remarquable, l'Inde. Guillaume Bourin vous en parlera de l'Inde. Il y a un véritable défi dans l'Inde du Nord. L'Inde. Une chose qui me fascine quand je regarde cette carte, c'est que les bleus sont bien chez eux et les rouges sont bien chez eux aussi. On respecte les couleurs. Surtout, on ne se mélange pas. Chez les bleus, on parle beaucoup des rouges dans les séminaires. Alors on nous explique, alors un rouge ça ressemble à ça, ça croit ça, et puis ça pense comme ça, et on prend des notes. Puis on les met sur une étagère, puis on prie pour les rouges. Et Jésus dit, faites des rouges des disciples. Ok, ouais. C'est bon, c'est noté. En allant! Bouge! Bouge de là! Bouge-toi! Va arracher les rouges! Sinon, ça ne peut pas le faire! Ah oui, mais non, mais pour ça, on a des missions américaines. Seigneur, bénis nos frères américains qui aiment les rouges. Nous, on va s'entraîner. C'est comme les bleus, hein? C'est, on reste à Marcoussis, on s'entraîne. On fait pas de match, on s'entraîne. Il faut s'entraîner. T'es pas prêt, on va s'entraîner encore. Pour ceux qui étaient là hier soir, vous avez entendu ce que disait Thomas. Lui qui était un bleu, qui habitait en Alsace, qui est parti chez les rouges, du côté de Nantes. Il a dit, arrêtez de croire que vous devez être parfait avant d'y aller, parce que sinon vous irez jamais. C'est en allant que Dieu vous prépare et vous équipe aussi. Allez! Cette carte représente l'évolution du centre de gravité du christianisme mondial. Lorsque Jésus a donné ce commandement il y a 2000 ans à ses disciples, il était en Galilée. Et c'était là que la communauté chrétienne, 2000, 3000, 5000, se retrouvait. Et puis ensuite, l'Église a grandi, le livre des Actes des Apôtres nous montre l'Église en marche vers l'Europe, l'évangélisation du continent, l'histoire de la réforme, les grands réveils en Amérique du Nord. Et ce que nous observons, c'est un retour depuis les années 1970, un retour du centre de gravité du christianisme à nouveau à l'ouest et au nord, au sud, pardon, à l'ouest et au sud. De sorte qu'aujourd'hui, le centre de gravité du christianisme et du côté du Mali. Autrement dit, si vous habitiez sur la Lune, c'est un exemple, et que vous ayez un appareil photo spécial qui vous permettent de prendre une photo du chrétien moyen qui habite sur la terre. Ils seraient tout sauf blancs et ils parleraient tout sauf anglais. C'est ça que ça veut dire. Au jour d'aujourd'hui, le christianisme mondial est solidement ancré dans le sud et dans les pays émergents. La première force missionnaire, c'est le Brésil. Mais savez-vous quel est le pays qui envoie au prorata du nombre de chrétiens le plus de missionnaires ? C'est pas la Corée du Sud. C'est pas le Mexique non plus. Il y a beaucoup de pays, donc ça va durer à peu près 2 heures. C'est la Mongolie. C'est le pays qui envoie au prorata du nombre de chrétiens le plus de missionnaires. Lorsque j'étais en Malaisie pour une rencontre de jeunes leaders dans le cadre du congrès du mouvement de Lausanne pour l'évangélisation du monde, nous étions 600 jeunes leaders entre 25 et 35 ans, 100 par continent. Et lorsque l'appel à la mission a été donné, il y avait un enthousiasme dans cette salle qui était fort, en particulier parmi ceux qui venaient des continents du Sud. À un moment donné, les Chinois sont montés sur scène en disant « Nous avons un appel et nous voulons amener l'évangile de la Chine à Jérusalem en passant par la route de la soie, le Pakistan, l'Inde, le Moyen-Orient, et nous voulons ramener l'évangile à Jérusalem. » Sur ce, la centaine de leaders venus du continent africain les ont rejoints sur scène en disant « Nous avons un appel. Amenez l'évangile de la ville du Cap en Afrique du Sud jusqu'à Jérusalem en passant par le Sahel. » Et les Chinois les ont regardés en disant « Chiche, le premier arrivé gagne. » Et les jeunes leaders d'Amérique et d'Europe regardaient tout cela et ricanaient en disant « Ils se croient malins, hein ? Eh, mais c'est qui a les programmes de formation, hein ? C'est nous ? Ah oui ? Il faut venir étudier chez nous pour savoir comment faire. Ah oui ? Asseyez-vous les gars, c'est bien hein, le zèle. Bah, enfin, nous on va vous expliquer comment il faut faire. Hein ? Ouais. Faut s'entraîner. Voilà. C'était long, formation, long. Long, licence, master, doctorat, deuxième doctorat, troisième doctorat. Ça. Je crois que Dieu, dans sa sagesse, travaille avec ceux qui veulent travailler. Et si au jour d'aujourd'hui, il confond la grandeur académique de l'Europe et de l'Amérique du Nord avec le zèle et la folie de jeunes leaders comme André de Russie, qui avec une licence en anglais implante une église avec plus de 1000 membres. So what? C'est lui qui est en charge de la mission, hein? Il fait ce qu'il veut. Vous avez ici une carte de France avec à gauche le nombre d'églises locales par département et à droite le nombre d'églises locales ramenées au nombre d'habitants par département. Donc il y a des départements où il y a beaucoup d'églises, par exemple dans le Nord, dans le Schnorr. Il y a beaucoup d'églises dans le Schnorr, mais quand on ramène cela à la proportion du nombre d'habitants, on voit que ce sont des départements qui sont en déficit. L'objectif affiché de la commission d'implantation d'églises nouvelles du CNEF, c'est d'implanter 4000 églises en France à partir des 2000 existantes, de façon à arriver à un phénomène de saturation, autrement dit, sur la carte de droite, tous les départements allumés au rouge. Vous n'êtes pas trop mal chez vous, hein? Vous n'êtes pas trop mal. Il faudrait doubler dans votre département le nombre d'églises pour arriver à une église pour 10 000 habitants. Nous, nous sommes en bleu, ici, sur la carte. Mais j'ai grandi en Alsace. En Alsace. Le paradis. Le ciel. C'est là où vous pouvez choisir entre 250 églises évangéliques au mètre carré. Oui. Aujourd'hui, je vais aller là. Oh non. Ok, là. Oui, ok, d'accord. En Alsace, c'est impressionnant. L'église a du mal à franchir la ligne Maginot. Il y a des lignes comme ça. Il y a l'Alsace et puis la France. Et c'est un phénomène de strabisme qu'on retrouve dans les églises évangéliques. C'est un fléau. Quand on dit alors les églises en Champagne, ouf, ouh là, c'est Reims. Reims, la Mongolie, c'est pareil. Hein. Et c'est dur de bouger les églises alsaciennes. Heureusement, il y en a qui ont cette vision de quitter l'Alsace et d'aller implanter des églises, par exemple, du côté de Nantes. On l'a vu hier dans le film, l'implantation d'église de Rosé. Trois copains, avec leurs femmes et leurs enfants, qui ont pris ce pari de déménager, de quitter leur confort, le confort des églises évangéliques d'Alsace, pour aller implanter une église du côté de Nantes. Il y a des départements autour de vous qui sont des véritables déserts, où il faut faire plus d'une heure de voiture pour aller à l'église. Ceci n'est plus acceptable. Plus aujourd'hui. Si la société McDonald's a comme vision d'implanter un McDo toutes les 30 minutes et qu'ils s'en donnent les moyens pour faire grossir les Français, alors où est l'église de Jésus-Christ qui est supposée implanter des églises pour qu'il y ait un témoignage vivant afin que les gens goûtent non pas aux buns de McDonald's mais au pain de vie? Au jour d'aujourd'hui, ce n'est plus acceptable d'avoir en France des déserts. Et c'est la responsabilité de toutes les églises de France de prier que en leur sein, une ou l'autre personne se lève et dise par la grâce de Dieu, nous allons implanter une nouvelle église avec une équipe et que cette église les bénisse, les envoie et par la foi les soutienne. Nous avons 2000 églises évangéliques en France. Si chaque église prie pour deux personnes de leur assemblée qui puissent se lever et partir implanter une église là où il n'y en a pas. En 20 ans, cette histoire, elle est réglée. Seigneur, envoie quelqu'un, mais surtout pas les diacres et les anciens parce qu'on en a besoin. Et pas ceux qui sont à la louange. Et pas ceux qui sont dans la chorale. Le reste. Envoie les gens dans le reste. Enfin, ceux qui sont... voilà, enfin, tu les connais, vas-y, appelle-les, il n'y a pas de souci. Ça, ils sont dans le fond, voilà. Les deux derniers rangs du fond, envoie-les, alléluia. On les bénit. Parce que dans le fond, on n'est pas si bête. Attention, hein, c'est sérieux cette histoire. Quand Antioche de Syrie a prié pour la mission et que l'Esprit Saint a dit « Mettez-moi à part pour les Barnabas. » Oh, la tuile. Oh, la tuile. Oh, la vache. Bon, breaking avec la Trinité. Réunion entre les anciens et la Trinité. Alors... Pour votre info, ceci est une église naissante, pour les Barnabas sont les colonnes de l'Antioche de Syrie, vous ne pouvez pas retirer les colonnes. L'édifice s'effondre. Paul et Barnabas. Allez! Bon. sitôt envoyé, sitôt remplacé. Eh, c'est comme ça. La logique du Seigneur. Tu m'envoies les meilleurs, moi je te les redonne les meilleurs. Il n'y a pas de souci. Hein. Ah, c'est moi qui suis en mission, hein, je connais. Hein. C'est moi qui bâtis l'église, hein, t'inquiète. Je connais tes besoins. Hein. Demande et je te donne. Quel geste de foi pour une église d'envoyer ses meilleurs et de se réjouir par la foi que le Seigneur va les remplacer ou que le Seigneur en son sein va susciter d'autres. Est-ce qu'on le croit ? Ou nous faut-il gérer l'église dans la chair ? On peut vivre l'église dans la chair, hein ? On peut. On sait comment faire. Mais est-ce que c'est encore l'église ? Est-ce que c'est encore un peuple qui marche par la foi ? Un peuple témoin. Ici, c'est une carte du centre-ville de la sous-préfecture où nous implantons une église. Nous sommes la grosse étoile verte. Et les points bleus, ce sont des gens de l'équipe ou des gens qui se sont convertis à notre église. Et c'est remarquable. Et les points verts, ce sont des gens qui sont en chemin et qui sont vraiment pas loin. D'ailleurs, il y a des points verts qui sont tournés en bleu depuis que j'ai fait la carte. Il y en a au moins deux qu'on a baptisés la semaine dernière. Ouais, donc c'est le peuple de Dieu qui vit au milieu de la cité et c'est la présence de Dieu dans la cité, comme je le disais hier, la preuve par neuf qu'on peut vivre dans une société qui n'est pas individualiste, qui n'est pas consumériste, qui n'est pas égoïste. Parce que Jésus est au centre et c'est celui qui est le bon berger et qui nous dit « prenez soin les uns les autres ». Ceci est le plan des bureaux. Lorsque j'étais ingénieur chez Michelin, je travaillais pendant quelques années pour ce groupe industriel en tant qu'ingénieur. Celui qui était juste à ma droite s'appelait Thierry. Et Thierry avait de grands projets pour moi. Quand il a appris que j'étais au séminaire et que j'étudiais pour être pasteur, il s'est dit « on va tester sa patience. J'ai de grands projets pour toi. » Il m'a envoyé faire l'inventaire de toutes les armoires de l'usine, prendre les cotes de tous les câbles électriques et noter tout ça sur un papier. Ça m'a pris 2 mois. Je suis revenu et il m'a dit, c'est bien. Maintenant, tu vas faire l'inventaire de tout l'équipement dans l'usine. Ça m'a pris 2 mois. Je suis monté sur les toits. À un moment donné, je me suis dit, tu fais exprès. Il me dit, j'aime pas les pasteurs. Je dis, pourquoi t'aimes pas les pasteurs ? Parce que j'ai un style de vie alternatif. Et j'ai été heureux. C'est pas la question, j'aime pas les pasteurs. J'ai dit, vas-y, tu peux continuer à m'envoyer à faire l'inventaire des mouches. Vas-y quoi, hein, moi je suis payé, hein, donc c'est bon, hein, mais on peut s'amuser à danser pendant longtemps comme ça, hein. J'aime pas les pasteurs. J'ai dit, c'est pas la question, est-ce que t'es heureux? J'aime pas ta question. On s'est mis à plusieurs, hein. Jeûne, prière, on a prié pour lui. 5 ans ça a pris pour qu'il fléchisse le genou, qu'il accepte le Seigneur dans sa vie. 5 ans à faire des inventaires. Ingénieur en système d'information, inventaire. Câble, là. Celui qui était en haut à droite, c'était un Auvergnat. Grande moustache. Saint-Nectaire. Tous les lundis, il nous bassinait sur son courbouillon ou je sais pas quoi, à la queue de bœuf, et je sais même pas comment est-ce qu'il faisait ça, on était aux États-Unis, c'était même pas pasteurisé. Ça devait être illégal comme truc. Il rentrait des fromages de manière illégale. Alors il t'expliquait comment est-ce que tu pouvais rentrer des fromages de manière illégale à la frontière, à Atlanta, quoi. Mais je savais que lui, lui c'était religieusement son café, machine à café, lundi 10h. Et donc je me suis calé sur lui. Et à chaque fois que je le voyais, je le dépassais tout, et puis j'arrive à la machine à café devant lui, puis je dis, viens, je t'offre un café. Oh, comment tu fais? Tout le temps tu m'offres un café. Allez, raconte-moi ton week-end. Alors, courbouillon, de machin, et tout ça. Et toi, qu'est-ce que t'as fait? Bah moi, je suis allé à l'église, et si tu veux, on a parlé de ça. C'est converti? Ça a pris du temps. C'est passionnant quand on voit les gens s'allumer au bleu. Entre midi et deux, quand on mangeait à la cafétéria, je m'asseyais avec mes collègues et puis je variais un petit peu. Hein. Puis à chaque fois, on parlait de religion parce qu'ils savaient ce que je faisais. Quoi. Tu vois, les religions, c'est toute la même chose. Pour un moment, moi, je connais un peu le christianisme, donc je ne vais pas m'aventurer sur les autres, mais christianisme, donne-moi une définition. Non. Ah, j'ai dit, bah, si, vas-y. Allez. Définis-moi le christianisme en une phrase. Tiens-toi à carreau, tu vas au ciel? C'est pas ça? Non. Tiens-toi bien à carreau et tu iras peut-être au ciel? J'ai dit, dans le christianisme, il y a Christ. Il y a Christ. Ok? Tu m'as même pas parlé de Christ. Tu vois, si tu enlèves Christ de christianisme, il reste yanisme, ça veut rien dire. Ok, mais alors qu'est-ce que Christ fait là-dedans? Hop, top, trop tard! Alors je prends une petite feuille, un petit stylo, je t'explique. Tac, Jean 3,16. T'as compris? Ok. Tu veux l'accepter aujourd'hui dans ta vie ou pas? Là maintenant, là? Ouais. Oh, j'ai encore des questions. D'accord. Une question numéro 1, vas-y, je t'écoute. Fascinant! Et puis à la fin, toujours, je mettais la feuille sur mon plateau et me dis, je peux la garder? J'ai 10 euros hors taxe. Allez! Pour faire des disciples, il faut aller. Il faut aller. Alors, on peut aller géographiquement, on peut aller sociologiquement, mais il faut aller. Et ensuite, il faut les baptiser. Ah, c'est de la balle, les baptêmes. Ah, moi, je pourrais en faire tous les jours. Surtout quand il y en a qui sont vraiment pénibles et qui sont venus au Seigneur, et là, tu te venges. Tu es 5 minutes sous l'eau. Seigneur, je bénis mon frère pour tous les inventaires que j'ai faits. Seigneur, bénis-le. Et accorde-moi la grâce de le pardonner. Et tu sais, notre record, c'est 10 minutes. Alors régulièrement, on invite les pompiers à venir pour faire des... Quand on baptise les gens, on leur dit, exprimez publiquement, faites votre coming out, et puis invitez votre famille, vos collègues de travail et tout ça, et dites que vous aimez Jésus tout simplement et que vous êtes son disciple, que vous voulez le suivre. Avant vous aviez un maître, aujourd'hui vous avez changé de maître, vous avez changé d'allégeance. C'est tout ce qu'on leur demande. Allez, montrez la couleur, dites-leur, j'admets, j'aime Jésus. Ouais. Bon. C'est l'occasion de le faire. Et c'est extra. Lorsque ces personnes qui se convertissent découvrent qu'ils ont un Père qui est au ciel, qui est saint, qui règne, c'est-à-dire qu'il n'y a rien qui le surprend, qui donne le pain quotidien, qui pardonne nos offenses et qui délivre, ils se disent, mais ça c'est une famille qui m'intéresse. Et ce Père, je peux l'appeler papa. Ouais. Quand ils découvrent Jésus, le bon berger, celui qui les appelle toujours et encore à porter leur croix et à le suivre par la foi, lui qui dit ne crains pas, ne crains pas, n'aie pas peur, suis-moi,
suis-moi. Mais Seigneur, est-ce que tu pourvoiras? Suis-moi. Oui, mais Seigneur, et lui, là, tu vas faire quoi avec lui? Puis, suis-moi. Oui, mais si je déplace ma famille avec les enfants dans cette ville, suis-moi. Fais-moi confiance. Suis-moi. Suis-moi. Et de se dire, je peux suivre quelqu'un qui prendra soin de moi et qui ne me trahira pas. Quand ils découvrent la puissance de l'Esprit Saint dans leur vie, qui les transforme de jour en jour et de gloire en gloire en l'image de celui qui les a tant aimés, qui a donné sa vie pour eux. Qui découvre qu'il y a la puissance du péché qui les pousse à ne pas aimer Dieu, mais qu'il y a une autre loi maintenant en eux, la loi de l'esprit, qui est encore plus grande et qui leur donne la victoire sur le péché quotidien. Lorsqu'ils comprennent qui est Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et qu'ils marchent dans l'amour du Père, dans la mission du Fils, dans la puissance du Saint-Esprit, mes amis, vous avez là quelque chose d'extraordinaire. Une naissance d'en haut, une nouvelle identité. Et c'est ça le baptême. On fait des disciples en allant, en les baptisant, en leur apprenant de s'intégrer maintenant dans une nouvelle famille. De dire, peut-être que tu as grandi dans une famille dans laquelle, quand il y a un problème, eh ben on s'engueule. Eh ben ici, c'est une famille et on réagit différemment. Peut-être que tu viens d'une culture dans laquelle, lorsqu'il y a un conflit, on se tait. Eh ben ici, dans cette famille qu'est l'Église, c'est différent. Alors tes valises, tu les laisses à l'entrée. Et quand tu rentres et tu franchis la porte pour rentrer dans cette nouvelle famille que Dieu te donne, tu apprends à te comporter différemment. Oui, mais moi j'ai toujours appris que. J'ai dit, ben maintenant tu vas apprendre différemment. Et quand on rentre dans la famille et qu'on laisse ses valises dehors en disant je suis prêt à réapprendre à aimer, je suis prêt à découvrir des mots dans le vocabulaire que je ne connaissais pas qui pouvaient exister comme je te demande pardon pour avoir fait cela. Waouh ! Je l'ai dit. Oh ! Et de découvrir que Dieu nous donne une famille dans laquelle on est membres les uns des autres, dans laquelle on s'aime. Et que ici, on ne joue pas aux cow-boys et aux indiens. On n'est pas des leaders comme dans le monde. On est serviteurs les uns des autres. Ici, on ne se mord pas. Si Paul a dit qu'il ne fallait pas se mordre, c'est parce qu'il connaît notre tendance à être carnivore, hein. Tiens, lui, oh, papa! Ah! On ne se ment pas les uns les autres, on ne se ment pas, on ne se déchire pas, on ne se. Ah, mais c'est du travail, hein! C'est du travail, hein! Est-ce que nous sommes encore prêts à laisser nos valises dehors et apprendre à vivre les uns avec les autres? Ou est-ce que nous défendons notre précaré? Ah oui, ici, on est en France, c'est comme ça que ça se passe. Hein? Non, il y a une culture, il y a une famille, et il y a des commandements. Il y a 21 commandements les uns et les autres dans l'Écriture. Si vous les repassez en revue, ça fait tout le rôle. Et c'est ce que Dieu nous demande. Et ça fait partie du baptême. L'idée de se dire, je m'identifie à une nouvelle famille, et dans cette famille-là, on se comporte différemment. Et ensuite il dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit, à obéir tout ce que je vous ai prescrit. Alors là, je ne sais pas pourquoi, mais bien souvent, on lit de travers. On dit, enseignez-leur à connaître tout ce que je vous ai prescrit. Alors on fait de l'enseignement dans les églises. beaucoup d'enseignements, pour que les gens connaissent beaucoup de choses. C'est pas ce que Jésus dit. Il dit enseignez-leur à observer. Quand on a implanté notre église, j'ai dit, moi ça m'intéresse pas que vous soyez hyper intelligent, je veux que vous soyez sage. La différence entre quelqu'un qui est très intelligent et quelqu'un qui est très sage, c'est que celui qui est sage, le peu qu'il sait, il le met en pratique. Est-ce que vous mettez en pratique tout ce que vous savez? Ou est-ce que vous faites une disjonction entre les deux en disant « Je connais la Bible et je vis ma vie ». Est-ce que vous faites un divorce entre votre orthodoxie et votre orthopraxie? C'est compliqué de vivre schizophrène. Et Dieu nous dit, mets en pratique. Ce que tu le sais, mets-le en pratique. Et ça, c'est la cure pour se battre contre le cancer qui est l'athéisme fonctionnel. C'est apprendre à mettre en pratique déjà tout ce qu'on sait. Et franchement, si on le faisait, peut-être qu'on recouvrerait à nouveau ce que c'est être disciple. Faites de toutes les nations des disciples en allant, en les baptisant et en leur enseignant. Dans notre église, nous avons adopté ce principe qu'on appelle le cycle de multiplication du disciple. Soyez féconds et multipliez-vous. On parle d'évangéliser les personnes, de les enraciner dans la foi, de les équiper pour le ministère et de les envoyer dans la moisson. À chaque fois, ça commence par un E, c'est pratique. On se fait les quatre E. Tout ça, c'est tiré des évangiles. En fait, on a repris tous les passages où Jésus est avec ses disciples et on a vu que c'est exactement ce qu'il a fait. Il allait les évangéliser. Ensuite, ils ont travaillé avec lui, ils ont baptisé dans le Jourdain. Venez avec moi, je vous ferai pêcheur d'hommes. Ça a duré quasiment 6 mois. Et après seulement, il en choisit 12 pour être avec lui. Et là, il les équipe en vue de la mission qu'il leur donne et il les envoie. Comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Lorsqu'on évangélise, les personnes passent de non-chrétien à chrétien. Comme on l'a vu hier, ils descendent l'échelle d'Engel. Et pour nous, on utilise un outil qu'on appelle les 7 signes de Jean. C'est tellement simple. Tout le monde peut le faire. Et c'est ça qui nous plaît. On a une feuille recto verso où on a les 7 miracles de l'évangile de Jean qui sont imprimés avec 4 questions. Qu'est-ce que ça t'apprend sur Dieu? Qu'est-ce que ça t'apprend sur les hommes? En quoi ça te parle? À qui est-ce que tu pourrais raconter cette histoire? Et quand on trouve quelqu'un qui est intéressé d'en savoir plus sur la foi, au lieu d'en l'envoyer chez le pasteur, on dit, est-ce que tu serais d'accord qu'autour d'un café, on parle de qui est Jésus? Et si la personne dit, ah oui, ça m'intéresse, on dit, ben écoute, voilà, on lui donne la feuille, et il dit, on va faire un miracle de Jésus chaque semaine. Le but du jeu, c'est simple, tu le lis tous les jours, et à chaque fois, tu te poses des 4 questions. Et à la fin de la semaine, on se retrouve et on en parle. Tout simple. Nous, on le fait, et je ne vous mens pas, les gens se convertissent entre le miracle 4 et le miracle 7. Ça marche. C'est puissant. Pas parce qu'on est intelligent, mais parce que les gens découvrent qui est Jésus. Et, chose étrange, ils tombent amoureux de lui. Je dis, ah oui, mais il est vraiment vivant, et il connaît vraiment mon nom, et il veut vraiment m'apporter tout cela, et il peut vraiment faire tout cela, et pour moi, oui, pour toi. Ah. Et petit à petit, il découvre qui est Jésus, et il tombe amoureux de lui. On fait du speed dating. Par exemple, Gérard, hop! Ça c'est, honnêtement, ça se fait assez tout seul, quoi. Et une fois que les gens sont saisis par qui est Jésus, alors ils sont prêts à lui donner leur vie. Dans notre évangélisation, combien de fois on veut essayer de briser le cœur des gens pour après leur dire « il faut que tu suives Jésus ». Mais comment voulez-vous que les gens donnent leur vie à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas ? C'est pas sérieux ! En découvrant qui est Jésus, ils se rendent compte très vite qui ils sont. Et très vite, ils disent « malheur à moi ». Et je préfère que ce soit Jésus qui brise leur cœur que moi qui essaie de briser leur cœur. Parce que si c'est lui qui brise leur cœur, il le brise avec tel amour qu'ils sortent de là en se disant « je devrais être en enfer et pourtant il m'aime. Comment c'est possible ?» Ça s'appelle la grâce, mon ami. Laissez Jésus s'occuper de cela et vous simplement présentez-leur qui il est. Les gens ont des concepts tordus sur qui est Jésus. Et le jour où ils découvrent à nouveau dans le texte qui il est, très vite ils se rendent compte, malheur à moi, malheur à moi, mais gloire à Dieu. Lorsque les gens font le pas, on a un cursus qui s'appelle les leçons de vie spirituelle, 13 leçons, de nouveau dans l'évangile de Jean, on refait un passage dans l'évangile de Jean, 13 leçons, et à chaque leçon, on explore des vérités sur l'évangile. On parle des disciplines spirituelles, on leur apprend à prier, on n'assume pas qu'ils savent prier, on leur apprend à prier, on leur apprend à prier les psaumes, on leur apprend à confesser leurs péchés, on leur apprend à jeûner, on leur apprend à évangéliser, on leur apprend plein de choses. On leur apprend aussi qui est Dieu le Père, qui est Dieu le Fils, qui est Dieu le Saint-Esprit, afin qu'ils puissent s'identifier à l'amour du Père, à la mission du Fils, dans la puissance de l'Esprit. On parle beaucoup de la théologie de la souffrance. Pourquoi est-ce qu'il y a le mal dans le monde ? Pourquoi est-ce que moi, en tant que chrétien, je souffre ? Est-ce que si je souffre, c'est parce que Dieu n'est pas content avec moi ? On leur apprend à écouter l'Esprit de Dieu, à être attentif à la présence de Dieu, à maîtriser les disciplines spirituelles, à développer leur théologie, et surtout à mettre en pratique le peu qu'ils savent déjà. Très vite, à la fin de la première leçon, on leur demande de nous raconter qui est Jésus et qu'est-ce qu'ils ont trouvé en lui. Et à la deuxième leçon, on les met au défi d'aller trouver quelqu'un et de leur raconter simplement qui est Jésus et comment ils l'ont trouvé. Et de dire, si cette personne est intéressée, alors moi je vais te montrer comment tu fais les 7 signes. En fait, c'est la même chose que j'ai fait avec toi. Et toi, tu le fais avec eux. Donc, en même temps que moi je te forme et je t'enracine dans ta foi, toi, avec ton collègue, eh ben, tu le fais découvrir celui que tu as découvert. Et puis le jour où il se convertit, si c'est la volonté du Seigneur, eh ben, ce que je viens de faire avec toi, tu le feras avec lui. C'est troublant, hein, de simplicité. Et ça marche. On en est là, à l'heure actuelle, à la troisième génération de disciples, des personnes qui ont reçu et qui donnent à d'autres et qui commencent à donner à d'autres. Parmi ceux qui sont disciples, il y en a qui aspirent à la charge de responsable. Et c'est une bonne chose. L'Écriture dit que celui qui aspire à être ancien, c'est une bonne chose. Et ceux qui aspirent au leadership, à être diacre, à être ancien, eh ben, on chemine avec eux et on regarde si les choses sont selon l'Écriture. On les prend à part et on leur enseigne. Et ceux qui sont déjà anciens et déjà diacres, on continue à s'investir en eux. Il y en a aussi dans l'assemblée que Dieu, dans sa souveraineté, appelle à être implanteur, à être évangéliste, à être pasteur, à être enseignant. Et nous avons l'œil sur ces ministères-là que Dieu suscite parmi nous. Et lorsque nous les voyons émerger, eh ben, nous les reconnaissons et nous les accompagnons et nous les encourageons. Et par la fin, on dit, ben, Seigneur nous a donné voilà, telle personne, et telle personne on reconnaît ce ministère, telle personne on reconnaît ce ministère. Alors lui, on va l'envoyer à l'école biblique, cette personne-là, il va s'occuper dans l'église de ceci, telle personne est un évangéliste, il va nous aider à affiner notre stratégie d'évangélisation, il va aussi nous encourager, nous, à être de meilleurs témoins dans notre travail, vous voyez. Et puis ensuite, ces gens-là, on les lâche, même si ça veut dire qu'il quitte notre église pour aller implanter d'autres lieux de culte ou pour aller bénir des nations au-delà de nos frontières. Rejoindre des personnes qui ne savent pas qu'il y a un Jésus qui sauve parce qu'il n'y a personne autour d'eux pour leur dire. C'est l'injonction de Paul à Timothée qui dit « L'enseignement que tu as reçu de moi et que de nombreux témoins ont confirmé, transmets-le à des personnes dignes de confiance qui seront capables à leur tour d'en instruire d'autres. » Quatre générations dans ce verset-là. Paul à Timothée à des personnes, et à d'autres, et à d'autres, et à d'autres, jusqu'à moi, Raphaël. Et la question c'est, est-ce que moi je vais continuer ou je m'arrête? Est-ce que moi je vais passer aux autres ce que j'ai reçu, ou je dis non, ça suffit? Est-ce que je le passe ou je le passe pas? Est-ce que je transmets ou non? Dawson Trotman, le fondateur des navigateurs, disait « Homme, où est ton disciple? Femme, où est ton disciple? » Est-ce que vous priez que le Seigneur vous donne des disciples? Ou est-ce que vous pensez que c'est seulement réservé au pasteur? Et pour avoir parlé pendant ces 3 jours avec Vincent, je sais que c'est son cœur. D'équiper les saints, afin que les saints fassent le ministère. Allez, faites donc de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. C'est le milieu du sandwich, c'est la viande, c'est le commandement. Et on regarde tout cela et on se dit, oula, moi je sais pas, là, tu me dis tout ça, je m'en sens pas. Je suis pas capable, moi, je suis pas capable même de faire une étude avec mes collègues sur les 7 signes de Jean, encore moins d'essayer de les enraciner dans leur foi. Et qui suis-je? Qui suis-je, moi? Je me retrouve pas dans ce que tu dis, Raph. Je comprends que Jésus fait ce portrait du disciple qui nous encourage à faire des disciples, mais je te le dis, je ne me retrouve pas dans ce portrait. Voilà, c'est dit. Et j'ai dit, eh ben c'est bien. C'est exactement là où Dieu te veut. Parce que c'est lui qui va le faire au travers de toi. C'est pour ça qu'il donne les promesses. Donc toi, tu dis, malheur à moi, lui fait pshhh, et il t'envoie. C'est tout simple. T'as juste à dire, malheur à moi, je suis incapable. Et lui, il vient et fait pshhh. Go. Go. Non, 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 non. Et lui, le maître de la moisson, qui est en mission et qui prépare toute chose, il te dit, oh, t'inquiète pas, moi, je suis déjà en train de travailler dans le cœur de ton collègue. Au cas où tu le savais. Genre, Lydie et le cœur qui s'ouvre. Ah, ça me plaît ce passage. Ça me plaît. Par la foi, Paul et son équipe traversent, vont en Europe et... Et là, et là, et là, Dieu ouvre le cœur de Lydie. Paf. C'est puissant. Et un tel réconfort quelque part pour l'équipe qui, je vous rappelle, ont quand même traversé à pied toute la Turquie et l'Esprit Saint a fermé toutes les portes. Je me demande d'ailleurs, en fait, quelle devait être la... quelle devait être... quelle devait être la tension dans l'équipe, tu vois. Genre Timothée dit, oh, j'aurais dû partir avec Barnabas, je le savais. Il sait pas où il va, le mec. Et jusqu'à ce qu'ils arrivent à Troas. Troas, c'est Nice, c'est pareil, que des retraités. C'est, t'as la mer, t'as la promenade des Anglais, et c'est, voilà. Et puis Paul, il disait, mais Seigneur, je te prie pour Éphèse, tu me donnes Troas, faut pas rigoler. Et là, ils sont devant la mer et quelque part Paul dit là je suis mal, j'ai pris toute une équipe avec moi, on a traversé la Turquie à pied, on sait pas où on va, tout va bien, je vais bien, tout va bien, Et dans la nuit, pouf, la vision de la Macédoine. Paul partage cela à l'équipe, et le verset suivant, nous décidâmes que c'était la volonté du Seigneur. Et des fois je me dis, Paul il devait dire au Seigneur, il dit quand même, t'aurais pas pu me donner la vision à Crète, hein. Non, parce que là devant l'équipe, si tu veux, j'avais l'air un peu d'un idiot, quoi. Hein. Je lui dis, allez, on va à Éphèse, pouf, tu fermes la porte. Après je dis, oh bon, on va aller au nord, pouf, tu fermes la porte. Quand même. T'as qu'à dire, malheur à moi, je m'occupe du reste. Il dit, tout pouvoir m'a été donné. Le mot pouvoir, ici, c'est exousia. Tout pouvoir m'a été donné. Tout pour moi m'a été donné. Je suis avec vous. Faites des disciples. L'homme répond, oui. Et il y en a deux qui disent non. Il y en a qui répondent oui parce qu'ils se disent, moi je peux le faire. Le Seigneur est tellement heureux. Depuis l'éternité, il attendait que je naisse. Et enfin, j'arrive. T'as 4000 églises, ça va être plié en 2 secondes, bouge pas. On va commencer par ça, puis on va aller jusqu'en Russie, tiens. Hop. Il y en a qui disent, non, non, je peux pas. Je peux pas parce que ce terrain, il est tellement fermé dans cette ville qui s'appelle Lan, que même Dieu lui-même, il peut même pas convertir les gens. Et je vais t'expliquer pourquoi. Il y en a qui disent, honnêtement, oui, je comprends, mais non, parce que je peux pas le faire, parce que j'ai peur. J'ai peur de ce que cela pourrait me coûter. Pour moi, pour ma famille, pour mon travail, tout ça, je suis pas, c'est trop pour moi. Et puis il y en a qui disent, ok, malheur à moi, mais Dieu peut. Dieu le peut. Alors si on lit la même Bible, l'incrédulité, c'est pas une solution. Laissez-moi m'adresser juste à mes collègues missionnaires. Je suis surpris dans nos rangs. Combien de gens pensent que Dieu ne peut plus sauver des gens dans leur milieu? Ça m'interpelle. Et qui vont vous expliquer par des schémas théologiques que Dieu, de toute façon, il sauvera personne dans cette ville et que c'est la seule église qui existe. Et alléluia, amen. Et on ferme les portes. Et on attend la venue du Seigneur. Je suis surpris. Je suis surpris des fois de notre tendance à mettre certains particularismes théologiques comme excuse pour expliquer pourquoi est-ce qu'on n'est pas en mission. Est-ce que ce n'est pas quelque part de l'incrédulité? Je vous pose la question. Si on lit la même Bible, vous savez que l'orgueil, ce n'est pas une solution non plus. Si tu penses que Dieu t'a tant attendu pour sauver le monde, eh ben, laisse-moi te rappeler que Dieu abaisse les orgueilleux et qu'il fait grâce aux humbles. Et que si tu penses que Dieu est tellement content parce que grâce à toi, tu vas changer le monde, alors pose-toi la question, qui c'est qui a la gloire dans tout ça? Reste la peur et la foi. Mais si on lit la même Bible, vous savez que la peur, c'est pas une solution non plus. Quand Jésus dit « Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit », un jour, un des professeurs de théologie pratique a dit, vous prenez votre Bible, je vous conseille d'en prendre une où les paroles de Jésus sont en rouge, ça ira plus vite, vous faites les 4 évangiles et vous notez tous les commandements qu'il donne. Pourquoi? Ben, parce qu'il a dit, enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, vaut mieux connaître ce qu'il a prescrit, comme ça on peut l'enseigner aux autres. Logique, hein? Ok, bon, d'accord. Donc, ça m'a pris... moins longtemps que l'inventaire, mais ça m'a pris quand même un certain temps. Et alors après, vous voyez, on faisait des catégories, et puis alors, après, il fallait classer par ordre. Et alors là, surprise. Quel est le commandement que Jésus donne qui revient le plus souvent dans les 4 évangiles? Aimer Dieu?
Non.
N'aie pas peur! De loin, hallucinant, faites le signe. De loin, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Avant la résurrection, n'aie pas peur. Après la résurrection, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Je suis en mission, je sais ce que je fais, je suis le bon berger, suis-moi. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Moi, je me dis que des fois, dans nos églises, si on enseignait aux gens à ne pas avoir peur, peut-être qu'on redécouvrirait le feu de la mission. Vincent, il fait. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Alors, la question, c'est comment est-ce que tu passes de la peur à la foi? C'est super simple. Regardez. Je refais, c'est un peu rapide. Hein. C'est pas moi, c'est lui. C'est comme ça qu'on passe de l'un à l'autre. Je ne suis pas Dieu, il est Dieu, et c'est tellement mieux comme ça. Je ne peux pas, je l'admets, mais lui il peut. Par la foi, je dis oui. C'est comme ça qu'on passe de la peur à la foi. Tout pouvoir m'a été donné, il dit. Je suis avec vous. C'est le sandwich. Et il sait que le commandement fait peur. C'est pour ça qu'il dit, t'inquiète. Je mets le coussin. Je vous protège. Je vous protège. Tout pouvoir, tout exousia. Dans le Nouveau Testament, il y a deux mots pour pouvoir. Il y a exousia, il y a dunamos. Dunamos, c'est... T'as une porte fermée, tu mets un bâton de dynamite, ça fait boum, la porte s'ouvre. Ça, c'est le pouvoir dunamos, dynamite. Le pouvoir exousia, c'est... Bouge pas, tu prends la clé, tu la mets dedans, tu ouvres. Ça, c'est exousia, c'est la clé. Seigneur, Seigneur, mais cette ville est rebelle contre toi. T'as demandé la clé? Elle est rebelle contre toi. T'as demandé la clé? Elle est rebelle... tu peux me donner la clé? Ok. Tu vois, là, je t'ai donné une personne de paix. Ici, tu la vois pas, mais elle est là, la personne de paix. Ouais. Elle s'appelait Lucie, elle est à l'office du tourisme, et puis elle vous explique tout ce qu'il faut sur la ville. Elle vous explique comment est-ce qu'il faut venir, comment est-ce qu'il... Regarde! Et puis, laisse ces personnes t'aider. Laisse ces personnes t'aider, laisse ces personnes t'expliquer qui ils sont, où est-ce qu'ils en sont. Ça va t'aider. Et s'ils t'invitent chez eux, vas-y. Ouais, tu peux y aller, hein. Et puis même, tu peux rester chez eux. Et même, tu pourrais faire l'église chez eux, si tu veux. Jusque-là. Et parce que tu peux entrer la tente tellement profond de leur proximité, tu serais dans leur salon. Tout pouvoir m'a été donné. Je suis avec vous. Comme disait le frère André, donnez-moi un seul pays dans le monde qui est fermé et je vous dirai qui a la clé. Tout pouvoir m'a été donné. Dans le ciel et sur la terre, allez, faites de toutes les nations des disciples et les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit et voici, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Vous savez qui c'est ça? C'est André de Russie. C'est qui André de Russie? Il va falloir que vous ayez la cassette de hier après-midi. Hein. C'est André de Russie, un disciple, licence en anglais, passionné par la comédie musicale, qui a implanté une église dans son village natal. Il y a juste une chose que j'ai oublié de vous dire hier, c'est que pendant que André me serrait dans les bras et que je priais pour que ceux qui étaient là hier après-midi, vous savez quoi, il me disait, depuis tant d'années je souhaite rencontrer un Français qui aime le Seigneur et qui en est son disciple. Et pendant qu'il me serrait dans ses bras, il me disait, tu sais quoi, notre église a commencé à prier pour ton pays depuis maintenant 3 ans. Et depuis 3 ans, on prie qu'on puisse avoir quelqu'un, un Français que je puisse rencontrer et que je puisse retourner dans mon église et leur dire ça existe. Depuis 3 ans, on prie pour ton pays. Comment est-ce qu'ils vont là-bas? Est-ce qu'il y a des disciples? Est-ce qu'ils font des disciples? Est-ce qu'ils vont? Est-ce qu'ils baptisent? Est-ce qu'ils enseignent à obéir? Oh mes amis, si les Russes commencent à prier pour nous, on est mal barrés. Peut-être que c'est le temps du réveil. Prions. Seigneur, tu nous dis, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. Et nous voulons entendre et nous voulons répondre, oui, nous voici, envoie-nous. Me voici, envoie-moi. Et prends mes peurs. Aide-moi à me rappeler que tu es celui qui précède toute chose. Aide-moi juste à avoir assez de foi pour comprendre que je ne suis pas Dieu et que tu l'es, et que tu es celui qui règne sur ton trône et que les pans de ta robe touche même mon histoire. Redonne-moi une vision de qui tu es, Saint, Saint, Saint et l'Éternel des armées. À nouveau, de manière fraîche, pose ta cendre sur mes lèvres et purifie-moi, afin que je puisse répondre à ton appel et te suivre là où tu m'enverras. Seigneur, nous prions pour ces départements, pour ces villes, pour ces sous-préfectures qui sont autour de nous et qui n'ont pas de témoignage évangélique. Nous prions pour ces régions du monde où des hommes et des femmes attendent que quelqu'un vienne leur dire qu'il y a un Jésus qui sauve et qui n'ont plus besoin d'essayer de compenser pour leur faute parce que tu se substitues à leur faute. Alors Seigneur, oui, je prie pour cette Église. Que son cœur missionnaire continue à battre fort. Que tu suscites parmi eux des vocations. Que tu suscites parmi eux des disciples qui auront à cœur de prier eux-mêmes pour d'autres disciples. Et que ce peuple en marche s'exclame: la terre est remplie de sa gloire. La terre est remplie de sa gloire. Oui, il n'y a rien de plus magnifique que de s'inscrire avec nos histoires dans ton histoire. Toi qui es le grand poète et qui veux faire de nous tes poèmes, qui nous a préparé des œuvres d'avance afin que nous puissions les accomplir.